Donc, avant de donner la parole, enfin de vous la présenter et de donner la parole à Sylvie Brunel, je voudrais, comme c'est la coutume, je crois, vous dire quelques mots sur l'esprit de cette année qui sera consacrée à la géographie, mais comme le mot fait parfois un peu peur, donc j'ai intitulé l'année La Terre des Hommes, cette année La Terre des Hommes, qui est le sous-titre de la revue de la Société de Géographie qui s'appelle La Géographie, sous-titre La Terre des Hommes, avec l'autorisation de la famille de Saint-Exupéry, à laquelle nous avions demandé la possibilité d'utiliser le nom de ce roman, enfin qui est plus un récit qu'un roman de Saint-Exupéry magnifique qui se passe dans le désert libyen. Alors d'abord j'aimerais remercier notre compagnie, puisque vous avez voté apparemment, et son secrétaire perpétuel Bernard, de m'avoir proposé de présider cette année 2025. En fait, mon tour, comme vous le savez, était passé depuis quelques années en raison des fonctions que j'occupais alors. Et j'ai tout de même réussi, entre 2017 et 2022, à vous infliger 6 voyages en géographie lors des séances de rentrée de l'Académie, puisque notre coutume veut que le secrétaire perpétuel parle du sujet de son choix, même s'il n'y a aucun rapport avec le thème de l'année. Donc cette fois-ci, ce n'est pas moi qui m'exprimerai, mais une trentaine de géographes, universitaires, chercheurs, journalistes, écrivains, mais aussi d'amoureux de la géographie, plus quelques amis, dont certains sont membres de cette académie, qui ne se savaient pas géographes et qui ont accepté de porter sur leur propre centre d'intérêt un regard spatial. Donc qu'ils en soient d'avance tous remerciés. Je suis très touché, je suis certain que nous apprendrons beaucoup, y compris les géographes purs sucre qui sont dans cette salle. Donc je suis en 2025, finalement, le 4e géographe de l'histoire de l'Académie des sciences morales et politiques à la présider depuis sa restauration en 1832, après Émile Levasseur en 1880, Paul Vidal de Lablache en 1918, mais lui très brièvement, puisque en cette fin de Première mondiale, il est décédé le 5 avril, donc il n'a présidé que 3 mois et quelques jours. Et puis le dernier, Maurice Lelanou, en 1988, il y a donc 37 ans, Pierre Georges n'a pas eu l'occasion, qui est resté pourtant plus de 20 ans membre de l'Académie, n'a pas eu l'occasion de la présider, je ne sais pas pourquoi. Donc chacun d'entre nous vit dans un espace plus ou moins vaste, plus ou moins partagé, et en réalité, même lorsqu'on ne voyage pas, ce qui a été le cas pendant la longue pandémie de la Covid, par nous voyageons quand même par les biens et les services que nous consommons, par les informations que nous recevons, et nous sommes en lien avec la planète entière. C'est la mondialisation actuelle dans laquelle nous vivons. Et c'est l'objet même de la géographie que d'étudier la relation qui existe entre l'humanité et son environnement, de plus en plus mondialisé. Pour que le monde nous soit intelligible et donc rassurant, plaisant à vivre, nous avons tous besoin de culture géographique. Nous avons besoin de comprendre pourquoi les choses et les êtres vivants sont ici plutôt qu'ailleurs, comment ils se répartissent dans l'espace et comment ils créent des frontières. Pour y parvenir, les géographes établissent des cartes, et vous allez avoir votre lot de cartes toute cette année, puisque la plupart des conférenciers feront des projections, établissent des cartes qui les aident à s'interroger et à tenter d'apporter les réponses. La carte n'est qu'un moyen de présenter une situation spatiale. Ensuite, il faut l'expliquer. Les conflits qui émaillent l'histoire de l'humanité depuis les temps les plus reculés naissent toujours, si vous analysez bien les choses, de l'ignorance géographique qui aboutit à la peur de l'autre et peut devenir, c'est un slogan que nous avions utilisé pour le Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, une véritable arme de destruction massive. Seule la géographie permet un diagnostic complet des questions environnementales, climatiques en particulier, et Dieu sait si elles sont d'actualité, qui angoissent une grande partie de nos contemporains. La géographie permet de comprendre les complexes processus en cours et d'imaginer des solutions techniques, durables et humanistes, adaptées à chaque lieu et à chaque société. Il n'y a aucune solution passe-partout. Cela aussi, c'est un des enseignements de la géographie. Qu'Alain Besançon, qui nous écoute avec bienveillance de là-haut, j'en suis certain, me pardonne, mais je ne crois pas que la géographie, comme il l'a écrit dans un livre de 1987 s'appelant « Une génération », je le cite, « gagne à demeurer auxiliaire et à se pratiquer en amateur ». C'était sévère. J'espère au cours de cette année vous convaincre qu'elle est une discipline scientifique, certes une science humaine, mais une discipline scientifique à part entière, non seulement légitime, mais indispensable. Feu notre confrère Jean Brune, qui fut membre de l'Académie à la fin de sa vie, de 1927 à 1930, écrivait qu'il s'agissait, je le cite, « de la projection du vouloir humain sur la partie superficielle de l'écorce terrestre ». Tout un programme. Cette série de conférences abordera donc un échantillon des différentes conceptions du territoire. Le territoire, c'est l'espace géographique approprié, façonné par les individus et par les sociétés passées et actuelles. Cette branche du savoir peut encore passionner et faire rêver, comme au temps d'Hérodote, de Marco Polo, de Christophe Colomb, de La Pérouse, de Jules Verne et du temps des expositions universelles qui étaient très très riches d'enseignements géographiques. Le blanc des cartes est désormais comblé, mais il demeure encore tant de curiosités géographiques à assouvir afin que notre planète soit toujours mieux la terre des hommes, selon le titre d'un beau livre que je viens d'évoquer d'Antoine de Saint-Exupéry. La géographie est omniprésente dans nos vies. Sans géographie, on n'est nulle part. Voilà donc, en quelques mots, l'esprit dans lequel cette année a été conçue. Je voudrais maintenant présenter notre conférencière, Sylvie Brunel, que vous connaissez tous pour l'entendre et la voir fréquemment sur les chaînes de radio et de télévision, avec sa capacité étonnante à promouvoir la géographie, à s'engager, à démontrer clairement, à convaincre. Je résumerai brièvement son brillant parcours professionnel et scientifique, semé de rebondissements. Rappelons d'abord sa formation, on ne peut plus éclectique, puisqu'elle a enchaîné en 1981 un diplôme, je parle sous ton contrôle, du Centre de formation des journalistes. L'année suivante, un master en droit public. En 1983, l'agrégation de géographie. Et en 1990, un doctorat d'économie. En 2001, une habilitation à diriger des recherches, dont j'avais eu l'honneur de présider le jury, ce qui m'avait permis de faire connaissance avec l'œuvre de Sylvie Brunel, lui permet de devenir professeur de géographie à Montpellier, puis à la Sorbonne, où elle a enseigné de 2007 à 2023. Les enseignements en géographie du développement qu'elle donne dans la deuxième partie de sa carrière sont nourris d'une très riche expérience dans les ONG dans les années 1980 et 1990. D'abord à la Fondation Liberté sans frontières, à Médecins sans frontières, puis à Action contre la faim, dont elle devient présidente en 2001-2002. Elle tire de ses nombreux voyages un grand nombre d'ouvrages qui analysent le sous-développement, la misère, la sous-alimentation d'une manière quelque peu décalée par rapport à la littérature habituelle sur ces sujets qui est un peu ruisselante de bonne conscience et de simplisme. Je citerai un premier essai déjà iconoclaste, « La vache du riche mange le grain du riche », alors que tout le monde dit que la vache du riche mange le grain du pauvre, en 1985, Asie-Afrique, grenier vide, grenier plein, et en 1986, le nord-estais brésilien, et en 1986 également, suivi d'une bonne quinzaine d'ouvrages sur la misère, la faim, la coopération nord-sud, le gaspillage de l'aide publique. Pendant 20 ans, elle s'est investie pleinement dans les activités humanitaires, mais a découvert au fil des années que leurs acteurs ne sont pas aussi efficaces, sincères et désintéressés qu'ils veulent bien le dire. Elle en tire un roman sévère, Frontières, publié en 2003 chez De Noël et qui témoigne de sa désillusion face aux idées reçues concernant l'aide au développement conçue par les organisations humanitaires devenues on ne peut plus bureaucratiques et parfois refuge de névroses plus ou moins avouées. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, lui a trempé le caractère, et elle n'est pas du genre à mettre la poussière sous le tapis ou à manier la langue de bois, vous allez vous en apercevoir, ce qui n'est pas pour déplaire à ses étudiants, à qui elle apprend le courage des idées, à condition qu'elles soient étayées de connaissances solides et de réflexions approfondies. Après avoir quitté cet univers profondément décevant et devenu professeur à part entière, elle consacre depuis plus de 20 ans ses recherches et une partie de ses enseignements à l'étude du monde agricole, aux productions, aux circuits commerciaux de celle-ci et surtout aux paysans dont elle prend la défense avec fougue. Elle se révèle une nouvelle fois pleinement géographe, appuyant ses démonstrations sur des choses vues et sur des lectures étendues, pratiquant avec efficacité la gymnastique des échelles. Parmi la dizaine d'ouvrages qu'elle consacre à ce thème, je citerai d'abord ses deux vigoureux essais sur le maïs, au titre qui sont de vrais programmes, Géographie amoureuse du maïs, et Sa Majesté le maïs, la plante que nous adorons détester, mais qui sauve pourtant le monde, publié cette année, en 2024. Sur un ton plus léger, elle publie aussi une autre géographie amoureuse, celle de la pomme, Croquer la pomme, histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera, en 2016. Et quelques beaux essais plus généreux sont des éloges de l'acharnement de beaucoup de paysans à produire pour nourrir leurs contemporains, dans le respect bien plus grand qu'on ne le dit d'un environnement sain. Et je cite, « Plaidoyer pour nos agriculteurs, il faudra demain nourrir le monde. Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. » Tous ces ouvrages lui ont valu, en 2024, il y a quelques semaines, d'être élu membre de l'Académie d'agriculture. Voilà, Sylvie, je te cède la parole pour nous faire partager ta géographie amoureuse du monde.
Merci beaucoup, merci à tous. Monsieur le chancelier, merci de votre présence inattendue, finalement. Mais qui me fait d'autant plus plaisir, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, chères académiciennes et académiciens, chers amis, je suis extrêmement heureuse d'ouvrir cette séance de rentrée consacrée aux diverses facettes de la géographie grâce à le plus grand géographe d'aujourd'hui, Jean-Robert Pitt. Et je vais vous faire part, effectivement, de mes convictions. Mes convictions, elles sont dictées d'abord par un engagement qui est qu'il ne faut pas décourager la jeunesse, que nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'on parle d'effondrement, de collapsologie. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler de tout, alors je vais vous parler d'un certain nombre de sujets qui sont les différents thèmes sur lesquels j'ai travaillé au cours des dernières années et dont Jean-Robert Pitt a parlé. D'abord, première chose, vous le savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde de risques. Risque alimentaire, avec le retour de l'arme alimentaire et la question de savoir qui nourrira le monde. Risque géopolitique, avec le retour des puissances autoritaires et des conflits d'influence qui posent la question de savoir si nous allons vers une guerre de civilisation. Risque énergétique, puisque tout passe par l'accès à l'énergie. Quelle énergie? Qui la détient? À qui va-t-elle? Risque climatique et risque naturel, une planète de plus en plus chaude et des épisodes extrêmes qui se multiplient. Comment gérer notamment la question de l'eau? Ce sont des conférences que vous aurez d'ailleurs cette année avec différents géographes. Risque des migrations géopolitiques et climatiques, bien sûr. On va normalement de la pauvreté vers la richesse, mais c'est souvent plus compliqué que cela. Et on sait bien que l'action des migrations, on le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe à Mayotte, pose des questions colossales. Et puis, globalement, la montée des antagonismes et des clivages qui sont exacerbés par les réseaux qu'il faut bien appeler les réseaux asociaux, avec une polarisation et une radicalisation croissante des sociétés, des visions binaires qui s'affrontent, chacun vivant dans son propre univers. Et la question essentielle, comment vivre ensemble en paix sur la même planète? Alors vous l'avez dit, cher Jean-Robert, à cela, eh bien, j'ai consacré une carrière, des convictions, des livres, 5 ans à MSF, 12 ans à Action contre la faim, 20 ans à l'université, concilier humanitaire et enseignement. C'est dire que, par exemple, la colonisation n'explique pas à elle seule le sous-développement, comme on le disait dans les années 80, quand j'ai commencé à entrer dans le monde de l'enseignement et que les jeunes étaient polarisés par cette vision de l'échange inégal qui expliquait tout. Il fallait donner une autre vision, notamment à Médecins sans frontières, où nous nous rendions compte que la situation était beaucoup plus complexe que ce qu'on en disait. Donc un livre sur le Sud dans la nouvelle économie mondiale, parce que déjà on commençait à parler du Sud global, de ce Sud émergent. La question du sous-développement qui va devenir très vite au tournant des années 90, le développement durable, puisque la question environnementale à partir du sommet de Rio de Janeiro commence à prendre le pas sur la question du développement, avec toujours cette idée que l'humanité sait embellir la Terre. Il ne faut pas verser dans la collapsologie qui décourage cette jeunesse dont nous avons besoin. Cette accusation de la collapsologie me fait me demander à qui profite le développement durable et pourquoi nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup d'idées qui nous gâchent la vie. Vous avez vu là que vient de se créer les zones à faible émission qui interdisent de fait l'accès aux villes à un certain nombre de foyers modestes qui n'ont pas la chance d'avoir une voiture qui ne soit pas critère 2 ou 1. J'ai eu la surprise récemment de me rendre compte que certaines personnes ne savaient toujours pas qu'il existait cette question des critères qui aujourd'hui, il faut bien le dire, pourrit la vie d'un grand nombre de foyers familiaux modestes en province. Il y a eu donc une quarantaine de livres sur le développement, sur les famines, sur la sécurité alimentaire, et puis des romans, et puis cette géographie amoureuse du monde qui justifie que je sois là aujourd'hui. Une défense du tourisme, il y a une vision très élitiste du touriste, le touriste c'est toujours celui qui saccage, eh bien non, on l'a vu pendant le Covid, les régions et les pays qui perdaient leurs touristes étaient plongés dans une profonde pauvreté et demandaient le retour des touristes. Il n'a pas fallu 4 ans pour qu'on recommence à accuser les touristes, ce qui est quand même un paradoxe. Bien sûr, il faut que le tourisme soit responsable, c'est certain, mais nous avons besoin aujourd'hui de cette mondialisation pacifique, comme dit Rémy Cnafou, qui est le tourisme. Le roman dont a parlé Jean-Robert Pitt, le roman sur l'humanitaire, les frontières de l'humanitaire, est-il normal aujourd'hui que la catastrophe à Mayotte ait provoqué une collecte de fonds massive d'organisations qui n'ont pas la moindre compétence pour agir en urgence à Mayotte et qui ont profité de la détresse et de l'envie d'agir de leurs concitoyens pour collecter des sommes considérables qu'ils seront bien en peine d'utiliser. La terre des hommes est aussi, vous le savez, la terre des femmes. Elle représente plus de la moitié de l'humanité. Alors, quelques livres sur lesquels je vais passer rapidement, parce que je ne suis pas sûre que l'auditoire soit parfaitement adapté à un manuel de guérilla à l'usage des femmes. Mais il y a aussi dans une vie quelques parcours, quelques crises qu'il faut surmonter. Et le manuel de guérilla devient très vite un manuel de guérison à l'usage des femmes. Et puis, un amour d'une géographie de la mobilité, celle des chevaux, les chevaux, vous le savez, qui ont été à l'origine de la conquête d'un grand nombre de territoires, avec un grand nombre de livres et de romans autour du monde équestre. Et je sais que parmi cette académie, un certain nombre d'entre vous ont cette culture du monde équestre qui m'a amené à focaliser mon attention sur un territoire emblématique, puisque c'est ce territoire emblématique qui nous a fait naître le cheval ami, qui est la Camargue, avec Crin-Blanc. Crin-Blanc qui représente vraiment l'invention de la Camargue comme espace de nature et de liberté. Plusieurs livres sur la Camargue et à chaque fois la volonté d'avoir une vision géographique du monde. Alors qu'est-ce que c'est avoir une géographie, une vision géographique du monde ? Eh bien la géographie, c'est la science des possibilités. Comment l'humanité habite-t-elle la Terre ? Comment gère-t-elle les ressources, les milieux ? Les densités, les contraintes du froid, du chaud, du sec, de la pente, de l'eau, de l'altitude, de l'isolement, de l'exiguïté, du nombre. Est-ce que l'humanité subit ou est-ce qu'elle peut choisir ? Est-ce que les réponses sont globales ou est-ce que les solutions sont locales ? Jean-Robert Pitt a parlé de la question des échelles. La géographie pose la question des acteurs et des échelles. Et à chaque fois, les géographes, eh bien, refusent, pour la plupart d'entre eux, pas tous, le défaitisme, la science de l'effondrement. Ils manifestent, au contraire, une confiance en l'avenir. Et si j'ai choisi ces 3 illustrations pour cet écran, eh bien, c'est parce que, vous le savez, l'île de Pâques a longtemps été présentée comme l'illustration de l'écocide, c'est-à-dire des gens qui avaient détruit leur propre environnement par impéritie et pour mener une guerre de clans. Et l'étude des charbons fossiles, l'étude des crises climatiques a montré qu'au contraire, les Pascuans avaient été des horticulteurs absolument remarquables à l'ombre des volcans et qu'ils avaient subi au XIXe siècle non pas un écocide mais un génocide puisque les navires négriers étaient venus décapiter la population de l'île emmenant toutes les élites pour les emmener, pour les mettre dans des mines de guano au Pérou, et que la moitié de la population de l'île, dont les élites, avaient été décimées au cours de ce terrible voyage, et qu'il avait fallu aujourd'hui, eh bien, analyser ce qui était arrivé à l'île de Pâques, sans faire porter la responsabilité à des habitants qui, au contraire, avaient subi les chocs de l'histoire. Deuxième exemple, l'Amazonie. Nous avons beaucoup entendu que l'Amazonie était une forêt primaire, que cette forêt primaire, il ne fallait pas y toucher, qu'elle était en quelque sorte sacrée. Eh bien, les travaux de géographes comme Le Tourneau, comme Martin Droulers, comme Stéphane Rostin montrent que l'Amazonie, et on le sait aussi maintenant qu'on dispose de la technologie du LIDAR, le LIDAR qui est une technique de télédétection qui permet de voir à travers la végétation, eh bien, nous savons que l'Amazonie est un recrue, qu'elle a eu de très grandes civilisations, des civilisations qui avaient fait des plateformes, qui avaient fait des villes entières, et que ces civilisations, eh bien, elles étaient parties, elles avaient disparu au moment du choc microbien, mais qu'elles avaient bel et bien existé. Et donc, il faut faire très attention à mettre en accusation les territoires, comme disait le grand géographe Gilles Sautère, ne pas prendre pour évident ce que nous avons sous nos yeux. Le troisième exemple, ce sont les îles tropicales. Aujourd'hui, les îles tropicales, vous le savez, confrontées à l'exiguïté, à l'isolement, à la rareté des ressources, jouent beaucoup sur ce qu'on appelle la dette écologique, la justice climatique, en appelant le monde à réparer le fait qu'elles sont soumises aux effets du changement climatique. Quand on travaille sur les îles tropicales, on se rend compte aussi que ce sont des laboratoires de l'aménagement et que parfois elles prennent prétexte de chocs dont elles sont en réalité responsables en détruisant leurs plateaux coralliens, en épuisant leurs réserves d'eau douce, ce qui les fait s'effondrer. Donc, à chaque fois, la géographie s'interroge en mêlant le milieu physique et le milieu humain pour comprendre la réalité des territoires, l'histoire des territoires, la mémoire des risques. Alors, comme je ne peux pas vous parler de tout cela, j'ai choisi ce territoire emblématique dont je vous parlais tout à l'heure, la Camargue. La Camargue qui est, pour moi, un exemple idéal des enjeux à la fois des représentations et du développement durable. Et c'est d'ailleurs le thème de mon dernier roman, Le sourire de l'alligator, pour lequel, cher chancelier, vous m'avez envoyé une lettre dont je vous remercie beaucoup parce qu'elle est magnifique. Et je vais revenir à quelque chose que tous les étudiants connaissent parfaitement, qui est le triangle du développement durable. Il faut produire des richesses pour pouvoir les partager, hein, l'économie, le social, l'écologie. Il faut avoir une classe moyenne qui ait une ambition de préserver ces milieux pour pouvoir justement mettre en œuvre des politiques écologiques. Et le développement durable est aujourd'hui submergé par la sphère écologique qui a toute sa légitimité, certes, mais qui oublie souvent que s'il n'y a pas un certain niveau de vie, s'il n'y a pas des revenus à dépenser, eh bien, on ne peut pas mettre en œuvre à la fois une politique sociale et une politique environnementale. Alors, je vais encore resserrer la focale pour vous raconter une histoire, l'histoire d'un lieu qui est dans la Drôme, je vis dans la Drôme. Ce lieu est aujourd'hui le plus grand centre d'élevage en Europe d'une espèce qui existe sur Terre depuis 300 millions d'années, les crocodiles. Crocodiles qui nous apprennent aujourd'hui énormément sur les facultés d'adaptation. Et cette ferme aux crocodiles, avec le palais idéal du facteur cheval, ce sont les lieux les plus visités aujourd'hui de la Drôme. Ce sont des lieux qui, comme beaucoup d'ailleurs de centres d'élevage, travaillent sur la biodiversité, qui ont aujourd'hui un certain nombre d'espèces, comme les varans, comme les reptiles, comme les oiseaux tropicaux, comme les plantes, et qui s'interrogent justement sur cette question de tropicalité. Et ce lieu, la ferme aux crocodiles, est pour moi le point de départ d'une fable écologique qui me permet, à travers un territoire, de raconter un grand nombre de choses. Dans les années 2000, le directeur de la ferme aux crocodiles va en Louisiane et il va ramener de Louisiane une espèce de crocodile, ou plutôt d'alligator extrêmement rare, un alligator albinos. Il n'y en a qu'une dizaine dans le monde, parce que leur peau blanche, leur fragilité, fait qu'ils sont détruits par leurs congénères. Donc ils ne peuvent exister qu'en captivité. Cette mascotte, ce crocodile blanc, cet alligator blanc, devient l'emblème de la ferme crocodile. Dans ce roman, j'imagine que ce crocodile, on essaie de le voler, parce que vous savez qu'il y a un trafic mondial des espèces exotiques invasives, qu'ils, comme ils sont très intelligents, il arrive à se sauver, il part dans le Rhône, il descend le Rhône, et il arrive dans ce delta du Rhône, qui est donc la Camargue. La Camargue avec ses trois pôles, Arles, les Saintes-Maries de la Mer, Salins-Giraud, trois pôles fondamentaux d'un delta de 75 000 hectares quand on est intramuros, quand on est dans la Camargue insulaire. Que va-t-il se passer? Eh bien, ce delta du Rhône aujourd'hui, il rencontre des difficultés qui sont propres à un certain nombre de territoires littoraux, des territoires qui sont particulièrement exposés aujourd'hui au danger de la submersion marine ou de la remontée du sel. Vous le voyez, comme aux Pays-Bas, 70% du delta se situe sous le niveau de la mer. La salinité des eaux et la topographie conditionnent un usage extrêmement fin du territoire. En fonction de l'altitude et en fonction du degré de sel, vous allez avoir une Camargue fluvio-lacustre au nord, la Haute-Camargue, enfin la Haute-Camargue, les altitudes sont très faibles, où l'on va pouvoir pratiquer l'agriculture. Et puis plus au sud, eh bien, cela va être le royaume du sel. Cette Camargue, elle a, par la grâce de ceux qui l'habitaient, pu devenir un lieu emblématique d'une trilogie, la trilogie du flamant rose, du taureau noir et du cheval blanc. Dans ce milieu, eh bien, les romantiques au XIXe siècle ont construit toute une représentation qui en font une Atlantide émergée avec le taureau comme descendant du moderne Auroch, enfin de l'ancien Auroch, avec une culture et des patrimoines extrêmement forts. Cette Camargue, eh bien, elle est aujourd'hui une très grande région de biodiversité, ce qui explique d'ailleurs que des acteurs étrangers à la Camargue voudraient bien la mettre sous cloche. Il y a cette admiration d'une nature dont on pense qu'elle est naturelle, alors qu'elle est le produit des aménagements humains, et où, eh bien, la tentation aujourd'hui, il y a 14 textes de protection en Camargue, ce serait de la vitrifier, de la sanctuariser. Je mets dans cette région un crocodile. Je suis persuadée que je me plairais bien dans les marais de Camargue. Ce sont des livres pour enfants qui nous mettent en scène justement ce changement aujourd'hui des habitats et de la biodiversité. Cette supposition n'est pas purement gratuite. Si vous regardez l'évolution aujourd'hui du delta de Camargue, vous vous rendez compte qu'au début du XXe siècle, Joseph Darboux, membre du Félibrige, imaginait la présence d'une bête imaginaire, la bête du Vaccarès. Que le bois des Rièges au cœur de cet écosystème camarguais, le bois des Rièges au cœur du Vaccarès est une réserve intégrale depuis 1927. Et que, au paysage de la Louisiane, ces bayous de Louisiane répondent les genévriers de Phénicie qui, en Camargue, sont présents depuis 700 ans. Alors, dans cette Camargue, pourquoi un alligator qui présente, contrairement au crocodile, la faculté de s'enfouir sous la terre quand les hivers ne sont pas trop froids et de survivre? Pourquoi les alligators ne s'installeraient-ils pas, comme il y a aujourd'hui en France, des tortues de Floride ou tout un ensemble d'espèces animales ou végétales qui viennent du monde tropical? À Nîmes, l'emblème, c'est le crocodile. Les Romains, donc, avaient cette idée du crocodile. Alors, c'est une allégorie, mais Nîmes, l'emblème de Nîmes, c'est le crocodile. À Tarascon, nous avons, et à Beaucaire, nous avons le drac, des monstres qui vivent au cœur du Rhône, comme à Tarascon. Alors cela nous renvoie finalement à tout ce que l'esprit humain peut imaginer et comment l'on peut transformer les territoires. Comment l'on peut transformer les territoires? Eh bien, ceux qui ont fait la Camargue, c'est d'abord un homme, Napoléon III, qui est confronté, vous le savez, le grand 19e siècle, ça a été le siècle des aménagements, il est confronté aux inondations massives du Rhône au XIXe siècle, 1840, 1841, 1856. William Bouguereau a représenté d'ailleurs en 1857 la visite de Napoléon III auprès des sinistrés de Tarascon auxquels il veut porter assistance. Et face à l'ampleur des inondations, dont nous avons oublié aujourd'hui à quel point elles étaient massives, nous avons toujours l'impression que ce qui nous arrive est nouveau. Eh bien, quand on regarde la mémoire de l'humanité, on se rend compte que les catastrophes, les drames ont été beaucoup plus importants que par le passé, qu'aujourd'hui, même si nous sommes plus nombreux sur des territoires plus vulnérables. Eh bien, Napoléon III, avec les moyens de l'époque, décide d'endiguer les bras du Rhône et de faire une digue à la mer pour sauver cette Camargue de tous les dangers qui la menacent. À partir du moment où ce territoire est, d'une certaine façon, séquestré, peuvent naître autour de lui toutes les fantasmes, toutes les représentations. Et face à la modernité aménageuse, industrielle, qui va transformer notamment l'est du delta en une grande région productrice de sel et de potasse, eh bien un homme va s'élever, le marquis de Baroncelli, qui appartient au Félibrige de Frédéric Mistral, premier prix Nobel en langue provençale. Et le marquis de Baroncelli, eh bien, il va créer autour de la Camargue toute une représentation qui aujourd'hui est toujours aussi forte. Il va en faire la terre de la nation gardienne. Il va en faire le lieu où les gitans peuvent venir de toute l'Europe converger pour célébrer Sarah la Noire, la servante noire. Il va aussi faire donner leurs lettres de noblesse à Marie Jacobée et Marie Salomé, dont on dit qu'elles sont arrivées de Palestine dans une barque sans voile ni rame. Ce marquis de Baroncelli, il va créer quelque chose de tellement fort aujourd'hui en Camargue qu'il est devenu une référence. Il y a des tissus baroncelliens, il y a tout un ensemble de rites et de coutumes autour de ce qu'a apporté le marquis de Baroncelli. Son tombeau en 1952, le voici, mais aujourd'hui, on continue à se réunir au moment du grand pèlerinage à Sainte-Sarah le 24 mai, pèlerinage à Marie Jacobée et Marie Salomé le 25 mai et pèlerinage au tombeau du marquis de Baroncelli le 26 mai. Donc, vous voyez, une terre qui vit, qui vibre de toutes ces représentations. La seconde représentation qui est extrêmement marquante, eh bien, c'est deux hommes. Un premier homme que vous avez en haut de cet écran qui s'appelle Luc Hoffmann, qui va arriver de Suisse et qui va avoir envie de protéger les zones humides. Les zones humides, à l'époque, l'idéologie, c'est qu'il faut les drainer, les assécher, elles sont malsaines. Lui, il va créer la convention Ramsar, qui vise à protéger les zones humides en disant ce sont des tampons, ce sont des zones essentielles. Donc, Luc Hoffmann. Et puis, petit-fils par alliance du marquis de Baroncelli, Denis Colombe-Donnant, qui va imaginer la figure devenue mondialement célèbre de Crin Blanc. Denis Colombe-Donnant s'associe avec Albert Lamoris pour créer Crin Blanc, l'œuvre révélatrice de la Camargue, qui est palme d'or du court-métrage à Cannes en 1953. Et Crin Blanc va avoir une représentation, une visibilité mondiale, et il va faire que dans le monde entier, ce polder agri-industriel, tel que le définit Bernard Picon, devient le lieu de la nature sauvage et du cheval ami. Vous savez qu'aujourd'hui, l'équitation a beaucoup évolué entre l'équitation académique à une équitation plus tournée vers la figure du cheval comme compagnon. Eh bien, c'est à partir de Crin Blanc que les chevaux de Camargue deviennent blancs. Jusque-là, quand vous regardez les premiers films, ils sont de toutes les couleurs. Crin Blanc va figurer cette image, cet archétype du cheval blanc. Et dans le monde entier, aujourd'hui, on continue à venir en Camargue pour découvrir ces lieux. Alors, vous voyez, en 1947, quand il vient de Colombe-Donnant, cette espèce d'Hemingway de la Camargue, il vient créer cet hôtel, il le crée au milieu des marécages, il crée le premier hôtel pour cavaliers. Et puis, progressivement, cette Camargue, elle va se transformer. Elle va devenir de plus en plus attractive autour de ce lieu emblématique, cette espèce de Davos de la Camargue qui est Cacharel. Et vous voyez, créateur de l'immortel Crin Blanc, cheval emblématique de nos rêves et de nos ferveurs. Donc, cette Camargue va devenir une sorte de lieu où l'on projette ses fantasmes, ses représentations, ses attentes. Mais, comme tous les territoires du monde, elle est aujourd'hui soumise à la montée de la mer. Elle est soumise au réchauffement climatique. Elle est soumise à la montée, à la multiplication des épisodes violents. Et la question se pose de savoir si cette Camargue laguno-marine, cette basse Camargue, ne pourrait pas devenir demain une sorte d'Everglade parcourue par des hydroglisseurs et par des crocodiles, et notamment, après Crin Blanc, un crocodile blanc. Et la question que l'on se pose quand on travaille sur la Camargue, c'est de se dire à quel moment le monde entier comprendra-t-il qu'il suffit que les acteurs de Camargue aient envie de s'unir et qu'ils soient reconnus dans leur défense du territoire pour pouvoir sauver cette Camargue de la submersion marine dont on dit qu'elle est annoncée. Alors dans ce roman, c'est l'alligator qui est le personnage qui permet que ces gens s'unissent pour sauver l'alligator, dont le dont le delta a tout à gagner, puisque le grand prédateur de la Camargue, c'est le ragondin que vous voyez là, qui détruit les digues, qui prolifère, et le seul prédateur du ragondin, eh bien, c'est l'alligator. Alors, il faut remettre, en effet, les pendules à l'heure géographique. L'heure géographique, c'est de dire qu'il n'existe aucune fatalité à l'effondrement. Tout est une question de priorité et de moyens. Que les ressources ne sont pas, elles deviennent, comme disait Eric Zimmermann en 1935. C'est un flux. Les ressources, ce n'est pas un stock. La terre n'est pas un gâteau que l'on partage en un certain nombre de parts. La terre dépend, dans ce que nous en faisons, dans les ressources que nous tirons, de l'intelligence et de la volonté des hommes. Nos paysages sont des héritages. La géographie nous apprend qu'il n'y a pas d'optimum, que les paysages ne cessent d'évoluer et que quand on veut les figer, les fixer, eh bien souvent on aboutit à leur disparition. Que tirer une trajectoire linéaire à partir de l'existant se révèle toujours une erreur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a toujours des phénomènes de rupture. Les choses ne se produisent pas comme on pensait qu'elles allaient se produire. Il y a des catastrophes, il y a un certain nombre d'événements inattendus qui nous obligent à modifier la focale. Et nous avons, si nous le voulons, les moyens de répondre à tous les défis écologiques, mais nous ne le ferons pas sans tous ceux qui produisent et qui créent de la richesse. En Camargue, eh bien, la richesse, elle est créée par les agriculteurs, et notamment les riziculteurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que les riziculteurs, en dessalant les terres, permettent le cheval blanc et le taureau noir, donc ils permettent la culture de la bouvine, donc ils permettent la célébration du pays de crin blanc. C'est une viande, pour parler à notre président de choses qu'il aime, c'est une viande AOC de premier plan, l'AOC Camargue. Et puis, la Camargue, c'est aussi, pour la Camargue laguno-marine, eh bien, c'est l'exploitation du sel. Pourquoi ? Parce que subi, le sel est un poison, exploité, valorisé. Le sel est une bénédiction. C'est une bénédiction, bien sûr, parce que les plus importantes colonies de flamants roses de Méditerranée se trouvent dans les salins du Midi, à Aigues-Mortes et à Salins de Giraud. Mais c'est une bénédiction aussi, et le président des Salins du Midi aujourd'hui appelle à se ranger à ses côtés pour continuer à consolider les digues, parce qu'à Salins de Giraud, village né au XIXe siècle de l'exploitation salinière, village surgi de rien par la grâce de Solvay et de Péchiné, on invente aujourd'hui les solutions pour décarboner Fos-sur-Mer, pour trouver des batteries au sel, pour trouver des réponses qui nous permettent de nous libérer des énergies fossiles et qui nous permettent, eh bien, de faire face aux enjeux de la transition écologique. Donc, cette Camargue mérite d'être défendue. J'ajoute que l'IGP sel de Camargue, fleur de sel de Camargue, vient d'être reconnue parmi les 500 IGP et AOP françaises, un record aujourd'hui pour l'Europe. Nous avons la meilleure agriculture du monde, et nous ne le savons pas forcément, nous la critiquons souvent, ce qui m'amène à vous parler de la seconde partie de cette intervention, qui est la sécurité alimentaire, les enjeux alimentaires. Jean-Robert Pitt l'a dit, j'ai beaucoup publié sur la nécessité de nourrir le monde. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez dans l'humanitaire, eh bien les premières crises auxquelles vous êtes confrontés, ce sont les crises alimentaires. Et on ne sait pas forcément que le monde rural, les campagnes, ont toutes les réponses aujourd'hui pour sauver le monde, d'abord bien sûr nous nourrir, mais nous apporter aussi l'énergie, stocker et capter le carbone, créer de la biodiversité, d'autant plus importante qu'elle est nourricière. Les Chinois, pour eux, ce livre « Pourquoi les paysans font sauver le monde » est sorti en Chine. Pourquoi ? Parce que les Chinois savent très bien que la souveraineté alimentaire est un enjeu essentiel. Et d'ailleurs, chez eux, souveraineté alimentaire se dit souveraineté des grains. Il faut, en ce moment même, la coordination rurale, vous le savez, essaie de bloquer les accès de Paris pour se faire entendre. Alors bien sûr, il y a aussi l'enjeu des élections Chambre d'agriculture le 17 janvier qui l'oppose à la FNSEA. Mais il y a aussi un grand nombre de problèmes que rencontrent toutes les exploitations agricoles aujourd'hui. Problèmes de prix, problèmes de normes, problèmes d'environnement concurrentiel néfaste. Et donc j'ai voulu monter au créneau pour défendre ceux qui nous font vivre et ceux dont souvent nous oublions à quel point à nos portes ils doivent inventer au quotidien, se réinventer au quotidien pour faire face à toutes les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Alors Jean-Robert l'a dit, j'ai écrit un livre sur le maïs, Sa Majesté le maïs. Alors j'adore la provocation, vous l'aurez compris, mais la plante que nous aurons détestée mais qui sauve pourtant le monde, vous le savez, en France, on entend sans arrêt dire du mal du maïs. Et ça vaut le coup de se pencher sur le maïs. Pourquoi ? Ben parce que la faim continue d'être très présente dans le monde. La FAO avait espéré en 1996 éradiquer la faim à l'horizon 2030. Eh bien non, il y a toujours environ 700 millions de personnes qui souffrent de crises alimentaires graves et 2 milliards de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire chronique. Face à cela, ça veut dire qu'il va falloir continuer à produire. La FAO nous dit que, alors qu'en 1960, nous étions 3,3 milliards d'êtres humains sur la Terre et nous ne produisions qu'un milliard de tonnes de céréales, ça voulait dire qu'un tiers de la population mondiale souffrait de la faim. Aujourd'hui, nous produisons environ 2,8 milliards de tonnes de céréales et nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais nous avons toujours une personne sur 10 environ qui souffre de la faim. Eh bien, en 2050, nous ne savons pas si nous serons 8,5, 9 ou 9,5 milliards d'êtres humains, mais il faudra produire 3,4 milliards de tonnes de céréales. Pourquoi ? Parce que les gens vivent de plus en plus en ville, parce qu'ils veulent faire 3 repas par jour, parce que la pauvreté se réduit et parce que les enjeux autour des semences, autour de la terre, le foncier, autour de la protection des cultures face aux infestations parasitaires des animaux comme des plantes, la question de l'accès aux protéines, la question des sols, la question de la gestion de l'eau, la question de l'accès à l'énergie sont devenues d'autant plus cruciales que dans les pays émergents aujourd'hui, les classes moyennes mondiales s'accroissent de 160 millions de personnes chaque année. Et cette classe moyenne mondiale, elle entend bien manger à sa faim. Autour de l'arme alimentaire se posent des questions d'autant plus essentielles qu'il n'y a que 10 gros exportateurs de nourriture et il y a 150 pays importateurs. 150 pays qui dépendent de la fluctuation des cours mondiaux. Pensons à l'Afrique où les métropoles vivent, sont en position littorale du fait colonial et dépendent de leurs importations et le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. Poutine est devenu, depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, le grand maître du blé. Il était le premier importateur de nourriture jusqu'en 2014. Quand il a été victime des sanctions et de l'embargo occidental, il a décidé de développer son agriculture. Il est aujourd'hui le maître du blé. Alors il faut continuer à produire, mais bien sûr il faut le faire différemment. Il faut le faire différemment parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas être uniquement dans le productivisme. Il faut produire et protéger, et il faut produire dans le plus grand respect des écosystèmes. Face à cela, les céréales représentent 2/3 de l'alimentation mondiale, 1,5 milliard d'hectares cultivés. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que le maïs est monté considérablement dans la production mondiale de céréales. Si vous regardez 1960, vous voyez que le maïs, c'est la courbe rouge, il est en dessous du blé. Mais l'adaptabilité, la prolificité, la générosité du maïs fait qu'il va devenir, regardez la courbe rouge, il va devenir avec 1200 millions de tonnes la première céréale mondiale. À lui seul, il produit, il donne à peu près autant ou presque que le blé et le riz réunis. Alors bien sûr, on a tendance à le considérer comme une céréale destinée aux animaux, une céréale secondaire, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans un certain nombre de pays, bien sûr l'Amérique latine qui l'a vu naître, et vous avez là les Mayas c'était les dieux du maïs, il faut savoir que si les civilisations précolombiennes, aztèques, incas, mayas, ont pu devenir des civilisations avec de fortes densités de population, des grandes cités, c'est parce qu'elles avaient la possibilité de créer des surplus. Le maïs a été le fondement de ces surplus, bien sûr, pour les Incas, aussi avec la pomme de terre. Quand les États-Unis se sont emparés du maïs, en 1621, hein, vous savez, c'est toute l'histoire de Thanksgiving, quand les États-Unis s'approprient le maïs, ils vont en faire l'instrument de leur puissance. L'alimentation de la nation. Mais aujourd'hui, le maïs a gagné le monde. Il y a plus de 150 pays qui le produisent, du Danemark à l'Afrique du Sud, parce qu'il est extrêmement adaptable. Et l'Afrique, eh bien, on n'y pense pas forcément, mais en Afrique, 16 des 22 pays du monde où le maïs occupe la première place dans l'alimentation humaine se trouvent en Afrique. Continent où le tiers de la population dépend de lui pour assurer sa subsistance. Un État comme l'Éthiopie, par exemple, aussi incroyable que cela puisse paraître, mise sur le maïs. Et vous avez, face au maïs, des attentes considérables. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette céréale donne des rendements beaucoup plus élevés que le sorgho, que le mil. Donc, on essaie de planter du maïs partout. Vous l'avez sur la monnaie au Rwanda. Vous avez des pays comme le Kenya qui misent aujourd'hui sur le génie génétique pour essayer de faire face, eh bien, au fait qu'ils doivent nourrir des populations de plus en plus urbaines et de plus en plus nombreuses dans un laps de temps réduit. Et vous avez, par exemple, comme on l'a eu au XIXe siècle aux États-Unis, des concours de récolte. Montrez votre semence, montrez vos maïs, avec des ONG comme Baban Gona, par exemple, au Nigeria, qui misent sur cette céréale qu'ils considèrent comme miraculeuse pour faire face, eh bien, à ces enjeux alimentaires. L'Afrique, bien sûr, l'Afrique où la faim reste omniprésente, mais aussi la puissance qui rivalise avec les États-Unis pour le leadership mondial, la Chine. Les routes de la soie sont les routes du maïs. La Chine est avide de maïs. Et l'équation alimentaire de ce grand pays tient en cinq chiffres. Elle ne représente qu'un cinquième de la population mondiale. Elle a moins du dixième des terres arables. Elle n'a que le vingtième des ressources en eau. Du coup, elle produit à coup d'intrants, un tiers des intrants du monde, et elle a décidé que le maïs serait le fer de lance de sa sécurité alimentaire. Elle est aujourd'hui le deuxième producteur de maïs mondial derrière les États-Unis. Et vous voyez là le président Xi Jinping en visite dans le nord-est du pays, où il appelle les paysans à préserver les sols noirs, les fameux tchernosium que l'on retrouve aussi en Ukraine ou en Russie. Il les compare aux pandas géants de nos terres cultivées, et il y a aujourd'hui des véritables enjeux d'espionnage agricole autour notamment de la question des semences. Dans cette géopolitique mondiale où l'arme alimentaire est revenue au premier plan, notre agriculture française, sur 5% seulement des terres cultivées, elle arrive encore à cocher toutes les cases. Ne croyez pas qu'elle ne soit pas performante. Elle réussit le prodige en étant familiale, plurielle, d'être durable. Non seulement la gastronomie française est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010, grâce à notre président, mais elle est la première terre d'accueil des touristes au monde qui veulent manger français, qui veulent boire français. Et elle réussit à concilier quantité, puisqu'elle est encore dans le top 10 des exportateurs mondiaux de céréales, et qualité, puisqu'elle a, vous le savez, un grand nombre d'aliments et de vins qui font partie des meilleurs aliments mondiaux. Donc là, c'est une chance pour notre France qui peut encore se penser une grande puissance grâce notamment à la force de son agriculture et de ses industries agroalimentaires. Mais c'est une agriculture qui fait face à des exigences sociales et environnementales parmi les plus élevées au monde. Et quand on regarde ce qu'est devenue l'agriculture française, eh bien on se rend compte qu'elle était au deuxième rang mondial en 2000 et qu'elle est passée entre le sixième et le septième rang mondial, qu'elle avait 9% des parts de marché en 2000 et qu'elle n'a plus que 5 à 6%. Et les sénateurs aujourd'hui, comme Laurent Duplomb, comme Serge Mériou, comme Pierre Louault, tirent la sonnette d'alarme en disant « Attention, il est urgent de redresser la ferme France parce que nous perdons de plus en plus d'agriculteurs. Vous le voyez, nous avons perdu 100 000 exploitations en 20 ans. Alors bien sûr, le corollaire, c'est que ces exploitations s'agrandissent. Mais quels que soient les modèles, eh bien la concurrence déloyale, y compris au cœur de l'Europe, puisque vous le savez, on parle aujourd'hui de faire entrer l'Ukraine dans l'Europe avec tous les problèmes de l'entrée des produits en franchise de douane, du poulet ukrainien, du sucre ukrainien, qui ont posé énormément de problèmes à nos betteraviers et à nos éleveurs de volailles. Alors attention, ne croyez pas que je prône uniquement l'agriculture la plus productiviste. On a besoin en France de tous les modèles. Il ne faut pas opposer les modèles. Nous avons de la place pour tout le monde à la faveur de la diversité de nos terroirs, de nos marchés, de nos attentes, de nos gastronomies. Mais si on a besoin de toutes les agricultures, il faut pouvoir vivre dignement de son métier. Quelle que soit votre ferme, votre exploitation, il faut qu'elle vous rémunère, il faut qu'elle soit nourricière, il faut qu'elle soit transmissible, parce que chaque année, il y a 20 000 exploitations agricoles qui disparaissent et 13 000 seulement qui s'installent. Donc ça veut dire qu'on perd énormément de richesses. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les agriculteurs, entre autres, se battent contre cet accord qu'a signé Ursula von der Leyen avec le Mercosur. Bien sûr, l'Amérique latine achète des produits français, mais pour un certain nombre de produits, comme l'élevage bovin, comme le maïs, eh bien, on ne peut pas comparer les gigantesques fermes d'Amérique latine et nos fermes qui sont assez modestes, puisque la taille moyenne d'une exploitation en France est 69 hectares, alors que nous avons plusieurs milliers d'hectares en Amérique latine. Et si cela entre en franchise de douane, eh bien, ce sera la mort de cette agriculture que nous avons encore la chance d'avoir. Et dans cette agriculture, il y a une question essentielle, ce sont les semences. Les semences, c'est les nerfs de la guerre alimentaire. Vous entendez toujours le droit du paysan de ressemer. Bien sûr qu'on peut ressemer, tout comme moi, je peux tricoter mon pull au vert ou faire mon pain. Le problème, c'est que la semence, c'est un concentré d'intelligence et de technologie, et que la France, par exemple, a la chance de rester le premier producteur européen de semences de maïs, le premier exportateur mondial de semences de maïs. La moitié de ces semences sont commercialisées dans l'Union européenne. Et quand on regarde ce qui se passe, eh bien, on se rend compte que Poutine, par exemple, a bien compris que la semence était pour lui un instrument de puissance. Nous avons aujourd'hui 80 000 hectares de semences de maïs en France, nous sommes passés de 100 000 à 80 000. Poutine est déjà à 50 000 hectares de semences de maïs. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui un véritable danger de pouvoir agir avec des conditions identiques. Il ne s'agit pas de refuser la concurrence, il s'agit de refuser la concurrence déloyale. Et quand on parle, par exemple, de Parmentier, eh bien, on y pense toujours comme l'homme de la pomme de terre. Mais Parmentier, en 1785, a le Grand Prix de l'Académie de Bordeaux pour son travail sur la façon dont le maïs peut répondre à la misère et à la pauvreté des paysans. Les producteurs de maïs sont basés dans le sud-est, dans la région de notre Premier ministre, Pau, à côté de Pau. Ils ont fêté leurs 90 ans, puisqu'en 1934, un visionnaire, Louis Bidault, maire de Gannes, dit « il faut miser sur le maïs pour lutter contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine ». La Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, est devenue la première région productrice d'agriculture en France. Alors, je suis sûre que vous vous dites « oui, mais le maïs consomme trop d'eau ». C'est l'accusation que l'on fait toujours sur cette plante. Eh bien non, c'est la plante qui valorise au mieux l'irrigation, puisque pour produire un kilo de grains, il faut 1600 litres de riz, mais ça vous le savez, c'est une céréale d'eau, 900 litres de soja, enfin 900 litres d'eau pour un kilo de soja, 590 litres d'eau pour un kilo de pommes de terre ou un kilo de blé, mais 460 litres d'eau pour le maïs, 240 litres d'eau pour le maïs fourrage. C'est-à-dire que cette plante, comme elle est dite en C4, elle a une capacité de photosynthèse et de valorisation de la lumière, du soleil qu'elle reçoit et de l'eau qu'elle reçoit pour potentialiser sa production végétale avec des rendements qui peuvent atteindre 20 tonnes à l'hectare quand on utilise de bonnes semences et une bonne utilisation de l'eau. Alors autour du maïs se jouent aujourd'hui les enjeux de la guerre alimentaire mondiale. Quand vous allez à l'aéroport d'Atlanta, vous voyez cette image en majesté du maïs comme la plante phare, les États-Unis, première productrice mondiale, et de très loin. Vous savez que le 20 janvier, Trump prend ses fonctions. Je pense qu'il est absolument important de dire, en France, les maïsiculteurs ne sont pas des gens à faire disparaître, ce sont des gens qui savent que leur céréale est la plus adaptée à l'agriculture biologique parce qu'elle développe peu de maladies, c'est la céréale la moins traitée, c'est la céréale qui protège le climat et c'est la céréale qui piège le plus de carbone dans les sols, c'est-à-dire que la forêt cultivée ou le maïs ont à peu près la même capacité de stockage. Alors, il se trouve que le président américain est d'une certaine façon un épi de maïs, donc nous avons un enjeu absolument essentiel de défendre notre céréale, dont nous sommes les premiers exportateurs au monde de semences, qui présente l'intérêt pour les éco-soucieux qu'elle est gluten-free. Et voilà pourquoi je voulais vous expliquer toutes ces questions. Alors, je vais terminer, j'ai encore 2-3 minutes, je vais terminer par un schéma de synthèse pour vous expliquer ce que je crois être la grande fracture conceptuelle entre, je vous ai dit que le monde devenait un monde binaire, vous avez peut-être entendu, moi je suis accusée d'être climato-sceptique, quand on lit sur ma notice Wikipédia, vous savez que les notices Wikipédia sont abominables parce que c'est un réseau social qui ne dit pas son nom, la notice Wikipédia. Donc moi quand je lis ma notice Wikipédia, je lis toujours des choses épouvantables sur moi. Et je me suis dit, il faut que j'essaie de comprendre pourquoi ma vision est une vision qui n'est pas entendue par une partie de nos concitoyens, ou en tout cas, par exemple, dans la jeune géographie, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été formées à la même école que Jean-Robert Pitt et moi, qui est une école de confiance envers l'humanité, de capacité d'aménagement du territoire. Alors, je vous ai fait un schéma qui vient des réflexions du géographe François Mancebo, qui dit qu'il y a une fracture conceptuelle dans ce qu'on considère être la durabilité. Vous savez, quand on parle de développement durable, on oublie développement et on parle de durabilité. Cette fracture conceptuelle, eh bien, elle dit que pour ceux qui sont les tenants d'une durabilité très forte, nous vivons dans un monde fini où les ressources sont limitées. L'écologie qui est la science des organismes vivants, elle rétrograde l'homme qui est en noir sur cette carte, au rang d'une espèce vivante parmi les autres, mais une espèce vivante qui écrabouille les autres, une espèce qui est proliférante, qui est destructrice, une espèce qui doit apprendre l'humilité. Au contraire, toute une autre école, qui est l'école d'une grande partie des géographes, considère que les ressources ne sont pas, elles deviennent et elles dépendent de l'intelligence humaine. Que donc d'un côté, les ressources sont un stock, donc si vous les utilisez, il n'y en a plus. De l'autre côté, elles sont un flux, c'est-à-dire que l'on peut en permanence, au fur et à mesure de l'évolution des besoins, des techniques de la connaissance, eh bien, on peut avoir un monde de ressources où nous valorisons des choses qui au départ n'étaient pas perçues comme des ressources. Donc un stock, un flux. D'un côté l'écologie, de l'autre côté une vision de l'espèce humaine comme une espèce qui occupe trop l'espace, qui est trop présente. Et il y a d'ailleurs chez ceux qui s'insurgent contre la vision du développement durable qui met l'économie au même rang que le social et l'écologie, il y a une sorte de mise en accusation de la création de richesses, une mise en accusation de du capitalisme finalement, hein, puisque c'est la vision qu'il faut revenir à un autre monde où l'on va orchestrer une sorte de décroissance, où l'on va partager. Mais partager quoi? C'est la question qui peut se poser, puisque dans l'autre vision, eh bien, on se préoccupe de ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement, ça vient de l'ancien français viron, le cercle. C'est ce qui entoure le cadre de vie des sociétés humaines. Et il va influer sur elle, mais elle veut influer sur lui en retour. L'exemple typique, c'est le milieu urbain où vivent aujourd'hui plus de la moitié de l'humanité. Donc, face à cette vision, eh bien, d'un côté, on dit adaptation, atténuation, découplage, c'est-à-dire séparer la création de bien-être, découpler la création de bien-être et les émissions de gaz à effet de serre ou l'utilisation de matières premières, c'est-à-dire créer du bien-être de la façon qui soit de plus en plus intelligente. De l'autre côté, on dit décroissance, extension des zones protégées. On a un problème en Camargue, les 14 textes de protection qui s'accumulent dans le delta camarguais reviennent à déposséder les Camarguais de leur territoire, alors qu'ils sont précisément à l'origine de la beauté de ce territoire. D'un côté, donc, priorité à la planète, de l'autre côté, priorité à l'humanité. Et c'est cette fracture conceptuelle qui font qu'entre ceux qui idéalisent la nature et ceux qui croient beaucoup à la culture, eh bien, il y a aujourd'hui un dialogue qui devient impossible, avec des anathèmes, avec un rejet et l'impossibilité d'entendre ce que l'autre a à vous dire. Alors, je vous donne quelques exemples. Défense du loup ou défense des éleveurs. Vous savez que le loup a provoqué le recul du pastoralisme dans un certain nombre de régions françaises qui se ferment, parce que quand il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de paysages ouverts, il y a des broussailles, il y a de la friche et il y a le feu. Défense de l'ours blanc, on n'arrête pas de nous montrer des ours blancs déserrant sur des banquises qui fondent, ou eh bien, espoir pour les peuples du Grand Nord qui vivent dans un monde où ils ont enfin accès à un certain nombre de ressources, du sol et du sous-sol. Et il faut se souvenir que le monde des Unites était un monde d'une telle rareté que les personnes âgées étaient vouées à l'élimination parce qu'elles ne pouvaient pas vivre dans ce monde de ressources. Elles s'auto-marginalisaient quand elles n'étaient plus en mesure de contribuer à l'alimentation du groupe. Défense de l'éléphant ou défense d'une biodiversité domestique. J'ai écrit un livre sur un cheval du nord du Bénin, le cheval Berba, qui est un cheval très intéressant parce qu'il est résistant à la maladie du sommeil, mais ce cheval est en train de disparaître parce qu'il y a tellement de parcs naturels autour des Berbas que quand ils veulent chasser à cheval, alors en plus ils tuent le gibier avec une massue à la main, alors je veux dire qu'ils n'en tuent pas beaucoup, eh bien les gardes tuent les chevaux. Or ces chevaux seraient très intéressants pour nous permettre de pouvoir savoir comment lutter contre la maladie du sommeil, mais on idéalise aujourd'hui les Big Five contre les populations. Et il y a ce problème en Afrique de fermeture de plus en plus de territoires contre des sociétés pastorales, des sociétés d'éleveurs ou de chasseurs qui étaient à l'origine de ces fameux savane parks qui sont le produit de l'intelligence humaine. Idéalisation des insectes. On nous dit, oui, nous vivons l'extinction des insectes. Souvenons-nous quand même de la façon dont les insectes ont été le drame de l'humanité, la peste, le pou, le typhus, etc. Ou valorisation des insectes utiles. Et aujourd'hui, on est capable, avec des drones, d'épandre des trichogrammes, qui sont des petites guêpes, pour pouvoir tuer les prédateurs du maïs, qui sont les pyrales. La pyrale, c'est un petit papillon avec des larves. Et donc, on est capable aujourd'hui de valoriser les insectes auxiliaires, les insectes utiles, dans une vision des systèmes, des agro-écosystèmes, qui voient la complémentarité de l'ensemble des solutions combinatoires dont nous disposons pour vaincre les ennemis que la nature a toujours inventés pour détruire l'humanité, les maladies, les virus, les parasites et tout ce qui s'ensuit. Et il se trouve d'ailleurs que sa société s'appelle Altigator. Je vous dis, tiens, il y a une sorte de boucle avec mon exposé. Voilà, donc je vous ai expliqué ce qui pour moi faisait que j'étais une tenante résolue et engagée d'une durabilité dynamique. Voyons l'avenir avec espoir, ne campons pas dans le regret du passé, dans la nostalgie d'un monde qui n'était pas si bon pour l'humanité, ne serait-ce que pour les femmes. J'ai parlé des femmes, il faut regarder l'évolution du statut des femmes, et je vous remercie de m'avoir fait l'amitié de m'écouter aujourd'hui, et je suis à votre disposition pour vous dire que je crois en l'avenir du monde, parce que l'avenir du monde, eh bien, c'est unir confiance en l'humanité, connaissance du passé et espoir d'un monde meilleur. Je vous remercie.
Merci, chère Sylvie, pour ce plaidoyer vibrant en faveur d'une cohabitation positive entre l'humanité et son environnement.